Bonsoir. Les coordonnateurs du mécanisme national de suivi de l'accord d'Addis Abeba affirment qu'un groupe de 120 ex-M23 a été rapatrié hier en RDC. De son côté, le M23 parle des rapatriements forcés qui violent ainsi les principes du droit international. Comment analyser cette situation? Nous en parlons avec François Mwamba, il est coordonnateur du mécanisme de suivi de l'accord d'Addis Abeba. Bonsoir, monsieur François Mwamba.
Bonsoir.
Maître Juvenal Lemunubo Mubi, il est député national de l'opposition, il est cadre du parti politique INC et rapporteur de la sous-commission Forces armées à l'Assemblée nationale. Bonsoir, Maître Juvenal Lemunubo Mubi.
Bonsoir, monsieur Guy, bonsoir à tous les auditeurs.
Et l'abbé Richard Mugaruka, professeur à l'Université catholique au Congo et analyste politique. Bonsoir, monsieur l'abbé Richard Mugaruka.
Bonsoir, monsieur Mabé.
Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Une première vague de 120 ex-rebelles du M23 a été acheminée par avion de l'Ouganda vers la RDC. C'est le point de départ pour le respect des accords de Nairobi signés entre les autorités de Kinshasa et l'ex-rébellion. Cependant, l'ex-rébellion du M23 pense qu'il s'agit d'un rapatriement forcé, ce qui ne reconnaît pas du tout le camp gouvernemental. Explication avec vous, Berry Franklin Luchaka.
Tout part des déclarations signées séparément par le gouvernement congolais et l'ex-rébellion, le M23, l'an dernier. Bien que signées séparément, il y a lieu de noter que les deux déclarations prises ensemble couvrent les 11 points négociés et convenus entre les deux parties, parmi lesquels on peut citer la fin de la rébellion, l'amnistie, la libération des prisonniers, le retour et l'installation des réfugiés et des personnes déplacées internes, la démobilisation et réinsertion des combattants du M23 et j'en passe. Lors de l'évaluation de ces déclarations faites le vendredi dernier, les deux parties se sont accusées mutuellement de ne pas respecter les engagements pris. Cependant, le rapatriement des ex-combattants M23, qui fait partie de ces déclarations de Nairobi, n'est pas vu d'un bon œil par le M23. L'ex-rébellion a accusé Kinshasa en début de semaine de vouloir faire revenir de force les anciens membres de la rébellion du M23 en RDC. Le mouvement s'appuie sur le fait que plusieurs de ces ex-combattants réfugiés en Ouganda ont été blessés par balle mardi 16 décembre par l'armée ougandaise, dénonçant de ce fait une tentative de rapatriement forcé. Une version des faits que dément catégoriquement le coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord d'Addis Abeba. D'après François Mwamba, pour être rapatrié, il faut le vouloir, il faut le souhaiter. Donc, poursuit-il, je dément formellement toute allégation du type rapatriement forcé. Personne ne sera rapatrié par la force. Revient au Congo, c'est lui qui est congolais et qui souhaite revenir au Congo. C'est une citation que je referme. Tout compte fait, 120 ex-combattants du M23 sont en RDC, mais jusque-là, il est difficile de connaître les conditions dans lesquelles ils sont arrivés dans leur pays.
Merci Berry Franklin Luchaka. François Mwamba, je rappelle que vous êtes coordonnateur du mécanisme de suivi de l'accord d'Addis Abeba. Vous annoncez le rapatriement des 120 ex-combattants M23. Est-ce que vous confirmez qu'ils sont arrivés en RDC?
Ils sont arrivés en RDC, ils sont à Kamina, ils sont heureux d'être revenus chez eux. Nous avons ce matin, dans un point de presse, diffusé un élément en vidéo qui montre très bien comment les choses se sont passées, parce que j'ai entendu dire qu'on ne sait pas dans quelles conditions ils sont arrivés. Il y a une vidéo, il y avait Radio Capi présent dans la salle. Chacun a pu voir et écouter surtout les propos tenus par les uns et les autres parmi donc ces éléments. Donc je confirme, 120 sont à Kamina dans des très bonnes conditions.
Monsieur François Mwamba, pourquoi vous utilisez la force pour rapatrier ces personnes? Cela a été dénoncé par le président de cet ex-mouvement rebelle. Ce matin, ils ont même publié un communiqué annonçant le suicide des deux des éléments ex-M23. Ils se seraient donné la mort en signe de protestation contre l'approche que vous utilisez pour les rapatrier en RDC.
Vous me faites rire, vous, une grande radio qui avait tous les moyens techniques pour vérifier ce que nous disons les uns les autres, en ce y compris ce que Mwamba est en train de dire. J'avais compris dans un premier temps que l'armée ougandaise avait tiré sur des gens et qu'on avait tué. Maintenant, on me dit que non, c'est pas ça, c'est des gens qui se sont suicidés. Soyons sérieux. Au mois de novembre, on a défait par les armes ce qu'on a appelé à l'époque le M23. On les a défaits et ils se sont autodissous. Le texte existe. Aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un d'une manière sérieuse et opposable aux autres qui puisse signer un document en disant « je suis président de M23 ». Il y a une personne et une seule qui est reconnue en vertu de ce que nous avons signé à Nairobi pour mettre fin à cette affaire. C'est M. René Abandi, un focal pour suivre les actes subséquents à partir du moment où la reddition était là. On leur a laissé la possibilité de se transformer en parti politique. Je n'ai pas connaissance, à ce stade, qu'il y ait eu une démarche quelconque en direction du ministère de l'Intérieur chez nous pour que ces gens-là puissent rester chez nous en tant que parti politique. Qu'on soit sérieux. Nous sommes dans l'étape aujourd'hui, après l'amnistie, c'est un processus qui continue, 559 l'ont déjà obtenu. Il y en a, sur ces 559, 330 qui sont en Ouganda et 229 au Rwanda. La décision du gouvernement de la République, c'est de dire que ceux qui sont éligibles, pour être éligible, il faut être congolais, il faut avoir été amnistié, il faut ne pas se trouver sur la liste de gens poursuivables en termes de crimes contre l'humanité, crimes contre la guerre, des gens éligibles. Deuxième condition, il faut le vouloir. C'est ça les instructions qui ont été données. Je puis vous donner la date. C'est tous les 17 septembre par le président de la République démocratique du Congo. En disant, démarrons le processus et au fur et à mesure que les autres vont obtenir leur amnistie, ceux qui le souhaitent peuvent revenir chez eux et entrer dans le processus qui était prévu et qui est prévu par les déclarations de Nairobi, à savoir le DDR, on désarme, on démobilise et on aide les gens à se réinsérer dans la société civile et non plus dans notre armée. Voilà ce qui est en train de se faire et nous avons écrit à ces gens pour qu'ils puissent donner des indications pratiques pour que ce processus se mette en marche. Ils ont fait obstruction. Ils se promènent en toute liberté. Monsieur Abandi était au mois de mai le 20. Je donne la date, le 20. Vous pouvez vérifier. Il était à Goma. Je sais que... voilà. Donc, et maintenant, on nous dit qu'il ne peut pas venir à Kinshasa parce qu'il n'y a pas de sécurité. Donc, il y a la sécurité là où ils ont pillé, violé et tué. Et il n'y a pas de sécurité à Kinshasa. Donc, nous avons fait venir à Kinshasa. Laisse-moi juste comme ça fixer les esprits. Je pourrais écouter les autres autant que faire se pourra. Donc, je disais simplement ceci. C'est à cause de ça, c'est pour cela que nous avons fait venir à Kinshasa au mécanisme tous les envoyés spéciaux, tous les témoins internationaux, ceux y compris l'Américain Feingold, ceux y compris M. Janit des Nations Unies, tout le monde était là pour faire quoi? Pour faire constater que la République démocratique du Congo est un partenaire sérieux quand il signe, et d'autre part, faire constater la mauvaise foi et l'absence de volonté des gens de l'ex-mouvement de pouvoir aller de l'avant.
Oui, monsieur François Lamba.
Nous ne sommes pas arrêtés là, puisqu'il y a eu cette menace, cette indication, que le gouvernement ougandais allait violer l'accord cadre en octroyant, a-t-on appris, que les statuts de réfugiés politiques à une force négative, prenant comme prétexte la date du 12, date anniversaire donc de la signature de Nairobi. Nous sommes allés au-devant du gouvernement, nous nous sommes compris depuis le 5 décembre, nous avons travaillé ensemble et c'est ce qui a conduit effectivement à deux choses. Nous avons signé un protocole d'accord. Dans le protocole d'accord, il est stipulé le rapatriement du matériel militaire et le rapatriement des hommes. Et nous avons commencé, c'est la deuxième chose, à rapatrier et le matériel et les hommes. Et en ce qui concerne les hommes, il y en a 120, comme je l'indiquais tout à l'heure, qui ont pris l'avion. Les autres vont pouvoir suivre. Si vous voulez que je vous explique comment, je le ferai tout à l'heure.
Monsieur François Mamba, en ce qui concerne la menace brandie, n'est-ce pas, par l'Ouganda, l'Ouganda qui aurait dit que si ces ex-rebelles ne sont pas rapatriés en RDC, il va leur octroyer, n'est-ce pas, les statuts des réfugiés. Et pourquoi l'Ouganda a brandi ce genre de menaces? Cela veut dire que la RDC et l'Ouganda ne se sont pas mis d'accord pour gérer cette question?
Dans leur défaite, il y a eu des fuyards qui sont allés notamment vers l'Ouganda. Depuis le début, c'est pas d'aujourd'hui. Depuis le début, nous sommes dans ces processus, ça va faire un an. Depuis le début, l'Ouganda a toujours dit ceci, je n'ai pas d'argent pour les entretenir. Pour nous, ce sont des Congolais, prenez-le, reprenez-les. Nous ne pouvions pas, nous, d'une manière sérieuse, retomber dans les affres du passé, dans les erreurs du passé. Par le passé, on a donné des amnesties en bloc, par le passé, on a dit réintégration dans l'armée, et tout ça, toutes les choses qui, aujourd'hui, en dépit du fait que ces négociations ont pris un an,
merci,
l'État veut éviter. Et donc, c'est d'une manière minutieuse, sachant que quand on dit M23, c'est 6 nationalités. Nous le savions depuis le début. Il y a des Congolais là-dedans, certes, mais il y a des Rwandais, il y a des Ougandais et tous les autres. Il y a 6 nationalités là-dedans. Il a donc fallu y aller méthodiquement en mai. On est allé identifier, on a trouvé 1678, on leur a donné les documents consécutivement donc au texte de l'amnistie, puisque chacun devait s'engager individuellement. Ça a pris du temps.
Merci.
Donc
merci,
maintenant, aujourd'hui où nous en sommes au rapatriement, il faut que les gens soient sérieux, ou ils reviennent volontairement, ou s'ils ne veulent pas qu'ils le disent et qu'on mélange pas les dossiers entre des problèmes sociaux de gens et les problèmes de la paix que nous recherchons.
Merci, Maître Juvenal Mounoubo Moubi. Je rappelle que vous êtes député national de l'opposition, vous êtes aussi cadre du parti politique UNC et à la portée de la commission Forces armées à l'Assemblée nationale. Rapatriement des ex-M23 sur fond des polémiques, comment vous analysez cette situation?
Merci beaucoup, Monsieur Guy. Je voudrais saluer Monsieur François Mwamba et Abbé Mugaruka. Mais avant de parler du rapatriement, proprement dit, je voudrais tout d'abord rappeler que nous avons tous salué la chute du M23. Et cela a été dû par plusieurs facteurs. Bien sûr, la vaillance des éléments des FRDC, des commandants vaillants, mais également un consensus au sein de la communauté internationale qu'il fallait en finir avec cette rébellion et l'appui de la population. La population n'avait jamais désarmé en termes d'optimisme et appui aux éléments des FRDC. Il y a même des habitants de Rutshuru qui donnaient à manger aux militaires. Et nous voulons que les mêmes efforts soient appliqués contre les ADF Nalu, contre les FDLR et tous les autres groupes armés qui pilile l'est de la RDC. Et par là donc du rapatriement, même si M. François Mwamba dit que tout se passe sur une base volontaire, à lire entre les lignes ces propos, je découvre en effet qu'il y a un déficit des consultations ou des concertations, vraiment un déficit de dialogue. D'une part, entre le gouvernement congolais et ces mouvements d'effet, ex-M23, il y a aussi déficit de dialogue, il faut le dire, entre Kinshasa et Kampala. Donc ça, on ne peut pas le nier. Alors, la grande question, c'est celle de l'évasion qui a eu lieu. On se pose des questions, mais pourquoi une évasion après une année, alors qu'ils étaient sous la puissance, sous le contrôle de l'Ouganda? Et les déclarations de l'Ouganda ne me semblent pas aussi satisfaisantes ou complètes. Il serait mieux que l'Ouganda nous dise un peu en détail comment ça s'est passé. Et cela me pousse effectivement à demander une enquête au sein de la CIRGL ou de la SADC. Il faut que les témoins aux déclarations, ces déclarations qui, il faut le dire, avaient véritablement des allures d'accord, désaccord, parce qu'en réalité on parle de déclarations, mais lorsque vous lisez les obligations des uns et des autres, eh bien il s'agissait bel et bien des accords qui ont été signés, parce que le gouvernement a souscrit à des obligations, les 1-23 des mêmes, ainsi de suite.
Et donc il y avait des engagements mutuels.
Il y a des engagements, donc on ne peut pas minimiser. Et donc si le gouvernement s'est engagé à faire, à remplir certaines choses, je crois que le mieux c'est de continuer dans cet élan pour voir dans quelle mesure nous pouvons avoir la paix. Donc il faudrait qu'on diminue un peu de triomphalisme, hein, qu'on pourrait évidemment lire dans les discours, et que tout converge à la cause de la paix. Évidemment, il faut savoir que la fin des hostilités sur terrain, ce n'est pas tout, hein. Il y a des travaux de finition. Et il me semble que c'est à ce niveau-là que se posent les problèmes. Et les travaux de finition, c'est quoi? C'est le rapatriement volontaire, bien évidemment. Il ne faut rapatrier que des Congolais. Il ne faut pas rapatrier des Rwandais ou des Ougandais. Les travaux de finition, c'est évidemment les DDR. Et il faut que le gouvernement offre des alternatives dans ce sens-là, des filières de réinsertion, et pas subir des situations comme Kota Koli. Même ceux qui sont à Kamina, nous ne souhaiterions pas qu'ils subissent une situation comme celle de Kota Koli, ou des ex, ou des démobilisés, meurent de faim, parce que Human Rights Watch, en effet, avait parlé de ça. Il y a la justice aussi, parce que la réconciliation n'exclut pas la justice. Et là, Human Rights Watch a rappelé tout dernièrement qu'il faut poursuivre les éléments 1-23, les responsables 1-23 qui se sont rendus, qui sont accusés des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Voilà, donc ces préalables, je crois qu'il faut les remplir. Il ne faut pas penser que cette question a été réglée définitivement, surtout que la société civile de Bénin nous alerte. Lorsque vous, si vous avez lu les potentiels aujourd'hui, les potentiels d'aujourd'hui, en effet, dans ces colonnes, citant les présidents de la société civile, qui lui-même a été cité par l'agence Chine Nouvelle, nous parle d'infiltration. Il y aurait infiltration, et c'est des choses qu'il faut vérifier. Infiltration vers Bénin, évidemment, des éléments X-123.
Maître Juvenal Lumodubo, juste après la défaite du M23, ses membres se sont les uns réfugiés au Rwanda, les autres à Ouganda. Et à partir de ce moment-là, vous pensez que la RDC avait encore assez de marge de manœuvre, n'est-ce pas, pour gérer ces personnes?
Oui, mais tout dépend de la diplomatie. Vous savez, la diplomatie, il y a la communication entre, au niveau diplomatique entre les ministères des Affaires étrangères. Eh bien, dans la façon de communiquer avec l'Ouganda. Parce que normalement, le Congo devrait demander des explications, devrait prendre en témoin la conférence internationale des Grands Lacs et la SADC. Comment se fait-il que cette évasion arrive dans ces conditions? Il y a beaucoup de risques, les risques d'infiltration. Ils peuvent aller se confondre avec les Congolais qui sont dans les cas des Rwamanja en Ouganda, tout comme ils peuvent se diluer dans la société ougandaise et organiser de temps en temps des incursions sur le sol congolais. Eh bien, il faut des enquêtes par des experts de la CIRGL, et c'est au gouvernement congolais de voir tout ça, et il devrait suivre de très près cette situation au lieu d'arriver à une situation où il y a une guerre des communiqués.
Maître Juvenal, l'autre difficulté, n'est-ce pas, ce qui a été fait par les deux parties en amont. Il y a deux éléments. Le premier, c'est le 12 décembre 2013 à Nairobi, trois accords sont signés. Les uns les qualifient de simples communiqués, tandis que d'autres parlent des accords au vrai sens du mot. Et le deuxième élément, c'est officiellement le M23, à travers ces documents, s'est autodissous, pendant que eux, les M23, disent qu'ils ne se sont jamais autodissous. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, ce qui s'est dit aujourd'hui, ne tire pas son origine dans ces divergences des vues?
Justement, pourquoi? Parce que dans les discours politiques, on nous présentait ces mouvements comme neutralisés, c'est ça. Mais dans les faits, dans les lignes de l'accord, les clauses de l'accord, M. Mwamba vient de les reconnaître, qui sont souvent avec René Abandi, qui est le répondant, en fait, dans des discussions pour la mise en œuvre de l'accord. Et donc, le gouvernement ne doit pas nous dire que la 1-23, c'était une réalité dissoute à travers les accords. Peut-être que la présence du 1-23 n'est plus visible à Rutshuru, mais dans les accords, dans ces mécanismes, dans ces travaux de finition de la question 1-23, eh bien, on voit les gouvernements en face d'un partenaire. Eh bien, dans ce sens-là, eh bien, tout ce que nous demandons au gouvernement, c'est d'épargner un peu aux populations congolaises les retournements de la situation ou les rebondissements de la situation, et de gérer cette question jusqu'au bout pour que nous ayons la paix.
Vous avez suivi monsieur François Mwamba qui a dit le M23, c'est 6 nationalités différentes. Comment peut-on comprendre qu'un État puisse accepter, n'est-ce pas, de signer des accords avec un groupe composé de 6 nationalités différentes?
Justement, c'était très glissant, évidemment. Voilà, c'était très glissant, et pourtant on disait que la M23 venait d'être vaincu militairement sur terrain, ce qui est vrai. Pourquoi? Parce que cela a été la conjonction de plusieurs facteurs, comme je le disais en introduction, lorsque j'ai pris la parole. Mais le travail préalable que devrait faire le gouvernement, c'est effectivement d'aller dans les camps de Bianga. Et de faire une séparation nette entre ceux qui sont congolais et ceux qui ne le sont pas. C'est à M. François Mwamba de nous dire si ce travail a été fait et si, de façon claire et sans embâge, on a pu séparer avec netteté des Congolais et ceux d'autres nationalités. Il a raison de dire qu'ils étaient de plusieurs nationalités. Est-ce que ce travail a été fait de façon systématique?
Merci, M. l'abbé Richard Mugaruka, professeur à l'Université catholique au Congo et analyste politique. Votre analyse par rapport à ces dossiers M23, ex-M23?
Merci pour la parole. Je voudrais d'abord exprimer une incompréhension de ma part. Je ne comprends pas très bien comment est-ce que un groupe, une rébellion qui a été militairement défaite et dont les membres se sont réfugiés dans deux pays voisins bien déterminés, notamment l'Ouganda et le Rwanda, je ne sais pas sous quel statut est-ce qu'ils ont été accueillis là-bas. Puisque ce n'était plus une armée, c'était une armée de fait, puisqu'ils n'avaient plus de statut, ils n'avaient plus de qualité juridique, je me demande pourquoi est-ce qu'on a continué à traiter avec eux comme s'ils constituaient véritablement un groupe homogène, un interlocuteur. Moi, je pensais qu'une fois défaite, le M23, les membres du M23 qui se sont enfuis, soit en Ouganda, soit au Rwanda, devaient être considérés simplement comme des simples réfugiés. Et être traités comme tous les réfugiés, qui se réfugient dans un pays voisin. Malheureusement, j'ai comme l'impression qu'ils ont continué à avoir un statut, à être traités comme des interlocuteurs, et je viens même d'apprendre par ce que nous a appris M. Mwamba, et qu'ils sont partis là-bas avec leurs armes, et que leurs armes devraient être ramenées au Congo. Donc là, je crois qu'on a mal géré. C'est le M23 une fois qu'il avait été défait. On dit qu'il s'était autodissous, mais en fait, il devait, normalement, après sa défaite, le M23 devrait tout simplement disparaître. Et que ses membres devaient commencer à traiter comme des simples réfugiés vis-à-vis de ceux qui les accueillaient en leur demandant le droit d'asile ou je ne sais pas quoi, vis-à-vis du Congo, si ce sont des Congolais, puisqu'il y en a qui ne sont pas des Congolais, ceux qui sont des Congolais, ils devraient être jugés parce que la participation à cette rébellion meurtrière est une faute.
Donc, oui, monsieur.
Voilà, je crois que donner la faute pour moi a été de donner une survie au groupe M23 comme groupe et de lui avoir donné une certaine reconnaissance juridique lui permettant de traiter avec le gouvernement congolais.
Voilà, monsieur l'abbé, le M23 a tendance à refuser, n'est-ce pas, de revenir, en fait, les éléments du M23 qui doivent revenir au pays ont tendance à refuser de revenir, et il y a même la réunion d'évaluation de la déclaration ou des déclarations de Nairobi et, qui s'est tenue le 7 novembre dernier, et ces gens n'étaient pas là parce que ils estiment qu'ils ne peuvent pas, n'est-ce pas, venir à Kinshasa, disant qu'ils craignent pour leur sécurité. Cela veut dire que l'État congolais ou le gouvernement congolais n'a pas rassuré ces personnes quant à ce qui concerne leur sécurité.
Mais quelle sécurité est-ce que quelqu'un qui a commis des crimes dans son pays peut exiger de son pays? Comment est-ce qu'on peut, après avoir commis des crimes au Congo et s'être enfoui du pays, comment est-ce qu'on peut de là négocier une quelconque sécurité? Quel type de sécurité est-ce qu'ils voudraient avoir? Si ce sont des criminels qui reconnaissent avoir commis un crime, normalement, ils devraient faire tout simplement l'objet d'une action judiciaire. Donc on les juge et on prend les mesures qui sont prévues par la loi. Si ce sont des réfugiés, qui ne sont pas coupables de crimes imprescriptibles, ils peuvent demander asile là où ils sont allés. Mais si ce sont des réfugiés coupables de crimes imprescriptibles, on ne peut pas les accueillir en vertu de l'accord cadre qui prévoit qu'aucun des pays de la CIRGL ne peut accepter d'abriter chez lui des criminels qui ont commis des fautes graves dans leur pays d'origine. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui n'a pas été clair dans la manière dont on a traité l'affaire des M23. Il vous souviendra que beaucoup de Congolais avaient estimé au moment où ils demandaient à partir de l'Ouganda et du Rwanda de négocier avec le Congo, beaucoup de gens avaient estimé qu'il n'y avait pas raison de leur accorder une existence comme groupe, qui devait se comporter uniquement comme des individus, et s'ils ont des revendications à faire, procéder comme des simples réfugiés. Je pense que ça a été une faute, c'est peut-être pas trop tard pour corriger tout cela. Parce que maintenant, par exemple, vous les amenez tous ensemble, comme un groupe, et on les met à Kabina. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il faut leur réserver ce que j'appelle un traitement de faveur?
Monsieur l'abbé,
oui.
Donc vous estimez qu'étant donné qu'ils ont été défaits, ils ne devaient pas poser des conditions de sécurité pour leur rapatriement?
Non, ce n'est pas ça mon idée. Mon idée, c'est qu'ils ont été des défaits, leur mouvement n'existe plus. Donc, le M23 n'a plus d'existence juridique. On ne peut pas traiter avec une entité qui n'existe pas. Ce sont devenus des réfugiés qui doivent être traités de manière que je pourrais appeler individuelle. Ils doivent poser leur problème en tant que réfugiés. Il y a, pour chaque pays, il y a une réglementation, une loi qui concerne le traitement réservé aux réfugiés. Il y a au niveau international le Haut Conseil, le Haut Commissariat pour les réfugiés qui traite des cas de réfugiés, mais on ne peut pas parler, ils ne devaient pas parler en tant que groupe constitué, en tant qu'entité ayant une existence, une personnalité juridique, comme personne morale. C'est ça que je veux dire.
Merci.
Parce que maintenant, vous voyez, on a parlé des problèmes de Kota Koli. Maintenant, vous les amenez comme groupe, donc comme une entité existante, comme une personne morale. Dès que vous les amenez comme ça et que vous avez traité avec eux comme tels, dès qu'ils arrivent au pays, ils continuent à se comporter en conséquence. Ils se comportent comme des gens existants. Il y a une existence juridique et qui donc, de ce fait, ça peut traiter avec le gouvernement.
Merci.
Ils sont comme des individus d'ailleurs, pour ceux qui sont des Congolais. Ils sont quand même partis de quelque part avant qu'ils entrent dans le M23. Ils avaient un village.
Merci, monsieur l'abbé.
Ils avaient un domicile. Ils peuvent rentrer chez eux s'ils n'ont rien à se reprocher et s'ils ne sont passibles d'aucune poursuite judiciaire en vertu de l'amnistie. Ils peuvent rentrer chez eux tout simplement comme individus.
Merci, monsieur l'abbé. Monsieur François Mwamba, il y a Bertrand Bissimoy qui signe souvent les communiqués du M23 en qualité de président, n'est-ce pas, de ces mouvements, et qui a parlé d'une violation par rapport à leur rapatriement, n'est-ce pas, qui a parlé d'une violation des droits, des règles du droit international et des déclarations signées le 12 décembre 2013 à Nairobi. Selon lui, le document signé à Nairobi prévoyait que la question du rapatriement soit discutée entre l'ex-rébellion et les autorités de Kinshasa, mais cela n'a jamais été fait. Cela voudrait dire que vous avez rapatrié les gens sans pour autant au préalable dialoguer avec eux. Vous avez suivi le député Juvenal Mounoubo Moubi, qui estime, n'est-ce pas, qu'il y a un déficit de dialogue entre le gouvernement congolais et l'ex-mouvement M23 et le gouvernement congolais et le gouvernement ougandais. Il y a un déficit de dialogue.
Oui, je salue à nouveau vos invités. Nous disons tous la même chose. J'ai suivi attentivement et l'un et l'autre, nous disons, je le confirme, tous la même chose. Alors, on est dans les nuances. S'agissant de est-ce qu'ils sont interlocuteurs ou pas, j'ai indiqué très clairement que dans la nuit du 4 au 5 novembre, ils ont été dégagés par les armes. Dégagés. Mais on a dégagé qui? On a dégagé des gens qui étaient instrumentalisés à partir de l'extérieur. N'oublions pas la dimension agression. Lorsqu'ils s'enfuient, lorsqu'ils sont en débandade, en réalité, ils se dirigent les uns et les autres vers leurs parrains.
Alors, si on occulte cet aspect-là de choses, évidemment, comme dit M. Hervé, ça devient un peu confus. Non, ils sont retournés vers les parrains. Et il faut savoir que lorsque nos forces armées entrent en action cette nuit-là pour l'assaut final, mais à l'international, je le dis sans embâge, à l'international, personne n'était d'accord. Tout le monde disait, la solution, elle est politique, elle n'est pas militaire. Donc, ce qui se passe par la suite de ce quoi, c'est que, ayant gagné, la République démocratique du Congo devait créer les conditions à partir desquelles ça ne soit pas la victoire d'un jour, de transformer cette victoire-là en stabilité par rapport au flanc est, tout au moins en ce qui concerne l'aspect M23. C'est ça qui a été fait à Nairobi. À Nairobi, il s'est ainsi, un, de faire constater qu'il y a une victoire militaire du côté congolais, deux, le Congo responsable, ayant à l'esprit qu'on peut gagner un jour et se retrouver dans des situations compliquées, la preuve, on a pris un certain nombre d'engagements à l'international qui n'étaient pas d'accord avec l'aspect militaire, mais nous les avons amenés à constater que la victoire était là, mais que, effectivement, pour aller vers la stabilisation de l'affaire, ces gens qui étaient retournés vers les parrains devaient être traités d'une certaine manière, justement pour les séparer avec ces parrains.
Monsieur François
c'est
Mamba,
ça l'aspect rapatriement, et c'est ça qui est en train de se faire.
Monsieur François Mamba, vous dites que...
Est-ce qu'il y a déficit de dialogue? Oui, il y a déficit de dialogue, bien entendu. Il y a déficit de dialogue parce qu'ils ne veulent pas dialoguer. J'ai dit, à plus d'une fois, je ne vais pas revenir là-dessus, j'ai montré à quel point, invité à 3 reprises à Kinshasa, ils ne sont pas venus. Mais alors, comment voulez-vous discuter avec des gens qui ne viennent pas, notamment en ce qui concerne le point focal de M. René Abandi. Maintenant, le dernier aspect sur lequel je voulais m'exprimer, c'est l'aspect comment on passe de gens qui sont partis en groupe et de pouvoir les traiter in fine. Mais c'est ce que nous sommes en train de faire. L'amnistie est individuelle.
Mais c'est François Mamba.
Si vous lisez le texte de l'amnistie, vous verrez que les engagements sont individuels. Le DDR qui les amène la chose à Kamina, in fine, lorsqu'on arrive au R, la réinsertion est individuelle. Donc ils partent en groupe, ils sortiront de là, un mécanicien qui ira à gauche, un chauffeur qui ira à droite.
Voilà
monsieur, comment les choses se passent.
Monsieur François Mamba, nous avons une question pour vous, n'est-ce pas, qui vient de Kinshasa.
Oui.
Maurice Basunga, depuis la ville-province de Kinshasa. Rapatrier les M23, c'est une chose. Appliquer les engagements signés à Nairobi en vue de garantir une paix durable au pays, en un une autre. Il est cependant pertinent pour moi de savoir si le gouvernement congolais respecte non respecté des engagements de la directrice à travailler en partenariat avec les M23 tels que dispose l'accord de Nairobi.
Monsieur François Mamba.
Je ne sais pas qui parle, hein. J'ai l'impression que c'est un porte-parole du M23.
Il s'appelle Maurice.
Excusez-moi, non, attendez, réputé, le gouvernement qui ne respecte pas, je crois que c'est excessif et je ne veux pas commenter ça. Parce que nous sommes justement en train de dire tout le contraire. Nous n'avons pas à travailler avec le M23. Qu'est-ce qui a dit qu'il avait signé quelque chose pour travailler
avec... Vous avez signé des accords avec...
Nous n'avons pas signé des accords dans ces termes-là.
Mais dans ce que vous appelez...
Nous avons pris des engagements en tant qu'État souverain.
Déclaration, il y a eu des engagements mutuels, n'est-ce pas?
On ne s'est pas engagé de travailler avec qui que ce soit. Ces gens viennent dans un process qui s'appelle DDR. Tu es désarmé, tu es démobilisé, on t'apprend un métier et... Tu vas où tu veux pour l'exercer en République démocratique du Congo. Ça, ce n'est pas travailler avec quelqu'un au sens où vous êtes en train de le dire.
Merci.
L'engagement est celui-là, il n'y en a pas d'autre. Vous venez, on vous désarme, on vous démobilise, vous n'êtes donc plus militaire, vous apprenez un métier, vous choisissez
merci
là où vous devez aller, j'ai entendu dire qu'il y a des gens qui étaient dans des villages et tout ça, etc. Très bien.
Merci, Maître Juvenal Munubo Mubi. Je reprends pour vous cette réaction qui vient de Mwenga au sud Kivu.
Et je suis ici, M. Galoussa, à partir de Mwenga au sud Kivu. Le retour des investisseurs dans le pays n'est pas là le problème des Congolais. Il faudrait d'abord penser à instaurer la paix dans les Grands Lacs et le retour de la paix à Beni. À quand l'évaluation des accords d'Addis Abeba comment la population de retour va-t-elle accueillir la nouvelle de retour de leur bourreau. En tout cas, pour le moment, ce n'est pas la priorité car la plaie est encore ouverte.
Maître Juvenal Monoboumoubi.
Je crois qu'il a raison. Hein. Il a largement raison. Pourquoi ? Parce que les foyers de tension qu'il y a à Beni maintenant, je crois que la tension la plus grande devrait être focalisée d'abord sur Beni. Il y a des questions qu'il faut résoudre impérativement de peur que ces questions ne nous rattrapent un moment et qu'on évoque ces questions comme étant des embûches par rapport au processus électoral. Je rappelle ici en tant qu'acteur politique que dans mon parti, l'Union pour la Nation Congolaise, et beaucoup de Congolais le pensent, et c'est comme ça que cela est posé comme devoir, l'année 2015, l'année 2016, ce sont des années électorales. Et il ne faudrait pas qu'il y ait des causes qui nous poussent à ne pas organiser les élections au Congo. Et donc, il a raison d'attirer l'attention et de l'attirer davantage sur des grands foyers de tension qui sont Beni. Il y a la question FDLR qu'il faut résoudre absolument. Il y a la question aussi des groupes armés locaux. Pourquoi, vous savez pourquoi je suis un peu inquiet et souvent inquiet par rapport au DDR? Peut-être que M. Mwamba pourra nous dire davantage. Le gouvernement parle du DDR, mais le gouvernement ne présente pas des filières concrètes de réinsertion. Il y a le pré-DDR où on cantonne les gens. Kotakoli, aujourd'hui c'est Kamina. Mais en réalité, on ne voit, les lignes ne bougent pas. Il n'y a pas vraiment des activités d'orientation ou des activités de réinsertion. Il faut savoir que si le DDR est mal géré, c'est une cause latente pour un nouveau conflit. Et moi, je me pose toujours la question, les conflits cycliques en spirale au Congo n'ont pas aussi comme cause les échecs des anciens programmes DDR. Donc, il faut faire attention avec ça. Je crois, je suis largement d'accord avec Bissimwa. Bien évidemment qu'ayant convenu à Nairobi du rapatriement des éléments 1-23, moi, je suis légaliste. Si le gouvernement a signé des déclarations qui ont dans leur contenu la force de véritables accords, je crois que le gouvernement, pour les besoins de la paix, doit aller jusqu'au bout. Moi, je lui demande d'aller jusqu'au bout et de ne pas jouer au malin. Pourquoi ? Parce qu'il a signé ça et a espéré que c'est de cette façon que le peuple congolais trouvera la paix.
Maître Journal, est-ce que l'autre difficulté n'est pas liée à la perception, n'est-ce pas, qu'avait le gouvernement congolais vis-à-vis de ces conflits, ainsi que la communauté internationale? Vous venez de suivre François Mwamba qui affirme que lorsque l'État congolais a déployé des forces pour défaire les M23, cela n'a pas plu à la communauté internationale qui, elle, n'est-ce pas, cherchait à privilégier l'approche politique. Est-ce que tout n'est pas aussi lié à cette divergence aussi?
Dans une certaine mesure. Et c'est pourquoi c'est une erreur pour le gouvernement de considérer que la victoire sur les M23 n'a été qu'exclusivement militaire. C'est une erreur d'analyse. Un analyste qui considère que cette victoire n'a été que la résultante d'une solution uniquement militaire, c'est une erreur d'analyse. C'est un faisceau de facteurs. Il y a bien évidemment la vaillance des éléments FRDC, de pas tous les éléments. Il y a eu des commandants bien identifiés. Certains sont décédés dans des circonstances qui nous ont tous attristés. Vous le connaissez, pour ne pas le citer. Il y a eu aussi une certaine convergence sur le plan international en termes de pression politico-diplomatique sur ceux-là qui appuyaient la 1-23. Il y a eu aussi l'aspect de la population elle-même qui a participé à la victoire, parce que jamais, au grand jamais, la population n'avait accordé confiance au 1-23. Et donc, ce n'est pas une victoire que le gouvernement peut s'attribuer seul. C'est une erreur d'analyse et de perception. Et donc, un résultat qui arrive fruit de la conjonction de plusieurs efforts, et la communauté internationale témoin à ces déclarations. Et ces déclarations veulent qu'on passe par les rapatriements sur une base volontaire de concertation entre les différentes parties. Et c'est Mwamba lui-même qui nous a parlé, était le premier à nous parler du délégué M23 avec qui ils ont des contacts, qu'ils aillent jusqu'au bout pour nous donner finalement la paix, parce que le gouvernement doit avoir une obligation des résultats. Il faut qu'il nous donne la paix.
Est-ce que vous reconnaissez que c'est une question complexe, difficile à gérer, compte tenu, n'est-ce pas, de l'implication des puissances étrangères dans cette question?
Toute question, évidemment, qui a plusieurs parties prenantes, elle est toujours en elle-même complexe, il faut le savoir, et le gouvernement ne doit en aucun cas perdre de vue cela. Donc c'est une victoire, je dirais, les artisans de cette victoire sont diversifiés. Et c'est ce qui explique la diminution un peu des triomphalismes que l'on doit assister maintenant. Merci. Côté gouvernement. C'est important d'être réaliste et de savoir nous sommes arrivés à ce stade comment.
Merci, monsieur l'abbé Richard Mugaruka. Il y a une question pour vous qui vient de Bukavu, au sud Kivu.
Robert Mohamed de Bukavu, au sud Kivu. Le rapatriement forcé ou non des 120 militaires ex-M23 en RDC ne doit pas surprendre ou tenir l'opinion. Je pense que c'est nécessaire que cette situation arrive aujourd'hui pour montrer à la face de nous tous que les engagements pris par rapport à l'accord cadre d'Addis Abeba ne sont pas strictement respectés par toutes les parties signataires, chacune en ce qui la concerne.
Monsieur l'abbé Richard Mugaruka.
Oui, affirmer cela, c'est dire en termes beaucoup plus clairs que, en fait, le M23 continue à bénéficier du soutien de ses parrains, et en vue de quoi? Sinon de perpétrer une autre rébellion et une autre guerre en République démocratique du Congo. En termes clairs, c'est cela que ça signifie. Or, normalement, nous avons eu plusieurs autres rébellions ici dans notre pays. Et qu'est-ce que ces rébellions sont devenues? Elles sont seulement disparues, elles ont cessé d'exister sous forme de groupes politico-militaires. Et bon, leurs membres appartiennent aujourd'hui à des partis politiques et ne se présentent plus comme des groupes politico-militaires ayant une identité ou un statut particulier. Je pense que c'est comme ça que ça devait finir avec les M23 si on était logique, non pas seulement avec l'évolution des événements, mais aussi avec l'évolution des tractations auxquelles ont pris part tous ceux qui ont participé à la victoire.
Monsieur l'abbé.
Notamment le fameux accord d'Addis Abeba.
Monsieur l'abbé.
Ce que je ne comprends pas, c'est que si le M23 s'est autodissous, si le M23 n'existe donc plus comme groupe politico-militaire, et que donc ses membres doivent être traités dans le cadre de DDRR comme des simples individus, quoi, enfin des personnes, hein, ceux qui ont bénéficié de l'amnistie, ils peuvent rentrer chez nous, ils peuvent rentrer chez eux parce que c'est leur pays.
Monsieur l'abbé.
Ils peuvent rentrer chez eux et réintégrer la communauté dont ils sont.
Nous vous avons compris, monsieur l'abbé. Monsieur
ceux l'abbé. Qui ont été condamnés,
bon, à votre avis,
par la voie judiciaire. Le reste, c'est vraiment malsain et dangereux. Par rapport au but qui était poursuivi par les tractations.
Voilà, nous sommes presque à la fin de l'émission. Monsieur l'abbé, que faut-il pour que les déclarations de Nairobi soient mises en œuvre et contribuent ainsi à la pacification de l'Est et de la RDC? Ça sera sous votre conclusion.
Un, qu'on prenne acte de la dissolution du M23 comme groupe politico-militaire. Deux, qu'on demande à tous ceux qui ont été parties prenantes sur le plan international, notamment les pays de CRGL qui ont signé l'accord d'Addis Abeba, de l'appliquer correctement, c'est-à-dire de ne plus apporter aucun soutien à ces gens-là. Trois, qu'on applique tout simplement le principe qui a été émis par M. Mwamba, selon lequel ces gens-là, une fois qu'ils entrent dans la procédure DDR, ils deviennent seulement des individus,
des
Congolais, qui doivent simplement bénéficier de l'appui pour pouvoir s'intégrer chacun où il veut.
Merci, monsieur l'abbé. Monsieur François Mwamba, que faut-il pour que les déclarations de Nairobi puissent contribuer à la pacification de l'Est et de la RDC?
Excusez-moi, j'ai pas très bien suivi la question. Vous dites hein?
Que faut-il faire aujourd'hui pour que les déclarations de Nairobi puissent aussi contribuer à la pacification de l'Est et de la RDC?
Nous sommes très près de la solution. Nous sommes très près de la stabilité dans ce pays. Je voudrais pouvoir simplement dire que nous avons tous bien parlé, mais il n'y a pas de triomphalisme du côté du gouvernement. C'est le président de la République lui-même qui a dit la solution, elle sera politique. Elle sera militaire, elle sera diplomatique. C'est ce qui est en train de se faire, et je pense que mon interlocuteur de l'INC était en train de développer cela. Il
Merci.
A simplement oublié que le premier à l'avoir dit, c'était le président de la République.
Merci. Nous sommes à la fin de l'émission, malheureusement. Maître Juvenal Monubo, votre conclusion.
Rapidement, je crois qu'il faut que l'Ouganda nous dise dans quelles circonstances cette évasion s'est opérée. Il faut qu'on retrouve ces gens, il faut qu'on les récantonne de nouveau. Et que les parties prenantes aux déclarations reprennent dialogue pour qu'ils nous trouvent une solution. On ne doit pas rester dans une situation de guerre de communiqués qui risque d'avoir des conséquences sur la marche de la paix, parce que nous voulons que que dans les jours à venir, que tout soit balisé pour les élections au Congo.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Sylvain Matundu qui était à la technique, à Alain Irung, Kéline Kouté et Berry Franklin Luchaka qui m'ont aidé à préparer cette émission sous la supervision de Julien Nyamouni, à la présentation Guy Maté. Merci et bonne suite des programmes sur Radio Okapi.